Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. Les discussions d'aujourd'hui pour définir le travail indépendant de demain. Des conseils à mettre en place au quotidien. Des sujets enrichissants pour aller plus loin.
Bienvenue à tous pour un nouvel épisode des génies du bien, le podcast des consultants portés indépendants et freelance. Je suis Geoffroy Boulard, je suis le directeur du Lab. Et je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui un expert, un consultant et un formateur qui s'est spécialisé notamment dans le développement personnel et professionnel et qui va nous parler de l'écoute. Il s'appelle Arnaud Boschurberg. Arnaud, bonjour.
Bonjour Geoffroy.
Je suis très heureux de te retrouver. On avait déjà eu l'occasion de te recevoir pour parler d'un autre sujet qui t'est cher. Là, on va parler de l'écoute. Toi qui es, je l'ai dit, formateur, expert sur tous ces sujets, mais aussi professeur d'université à l'université Eiffel. Je voudrais que tu nous redises un petit peu qui tu es, parce qu'on a des auditeurs qui te connaissent à travers le premier podcast des génies du bien. Nous redire un peu ce que tu fais, comment t'en es venu à te spécialiser sur l'accompagnement des dirigeants, des équipes hein, dans les entreprises, notamment sur ces sujets importants. Tu as écrit des livres d'ailleurs sur la communication solutionnelle. Et là, tu vas nous parler de l'écoute, mais un petit update. Voilà, quelles sont les nouveautés là? On est en début d'année 2024. Donc, tu as peut-être des nouveautés à nous faire part dans ce que tu développes, de ce que tu constates. Et puis, on en viendra à ce sujet qui intéresse tout le monde, savoir écouter. Est-ce qu'on écoute bien? Est-ce qu'on écoute bien ses clients? Et quelques conseils, j'imagine, que tu as à nous formuler.
Alors, il y a beaucoup de questions. Tout d'abord, merci de me recevoir ici. C'est toujours un plaisir de faire ces podcasts avec vos équipes ici. Je suis Arnaud Boschurberg. Professeur des universités depuis une trentaine d'années, j'enseigne la psychosociologie de la communication. J'ai effectivement créé des méthodes, une méthode qui s'appelle la communication solutionnelle, et je suis un spécialiste de la communication verbale et aussi non-verbale. Donc dans les updates, on va dire que je travaille beaucoup sur les problématiques de communication, à la fois verbale et non-verbale, avec notamment du profilage comportemental, qui se développe beaucoup en entreprise et aussi dans les cabinets de recrutement. Alors, je suis également dirigeant d'entreprise, je dirige une entreprise de 600 personnes au quotidien, et c'est ce qui fait aussi ma spécificité, ma singularité.
Tu as coécrit plusieurs livres, je l'ai dit, sur la communication solutionnelle, mais aussi avec des élus, hein, et notamment Karl Olive, le maire de Poissy, sur... voilà, toi, tu es dans le positif sur les choses qui vont bien aussi et de savoir le dire, ça, c'est quelque chose d'important.
Oui, on a écrit avec Karl un livre qui s'appelle « Rendre possible l'impossible » avec une préface du président de la République Emmanuel Macron. Et puis, j'ai écrit d'autres livres, notamment « La communication solutionnelle » et puis « S'affirmer en toute sérénité ». Et je travaille encore là maintenant sur d'autres livres et on en parlera peut-être à une autre occasion.
Merci Arnaud. Alors, on va parler de l'écoute. Je le disais, est-ce qu'aujourd'hui, on écoute bien? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait écouter l'autre? Et pourquoi on l'écoute? C'est un peu tous ces sujets qu'on va aborder avec toi. Si on a souhaité... avec Océane, que je remercie, qui travaille dans l'équipe, évidemment, du Lab et surtout qui coordonne toute la programmation. C'est parce que c'est un besoin qu'ont beaucoup de consultants, des portés indépendants, freelance, mais plus globalement, l'écoute dans sa vie, l'écoute de l'autre, c'est quand même la clé pour entrer en relation réellement avec autrui.
Oui. Il y a Hemingway qui disait « Il faut 2 ans pour apprendre à parler et toute une vie pour apprendre à se taire ». C'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance de l'écoute et notamment pour les professions évidemment de conseil. On a tendance à écouter pour répondre au lieu d'écouter pour apprendre et comprendre. On va le voir dans nos activités, mais aussi dans le lien amical qu'on peut avoir. On se retrouve avec des amis. Et puis, on va lancer une conversation. Mais vous ferez l'essai, vous me direz. On lance un sujet, quelqu'un qui va dire, il n'y a pas très longtemps, ah, « Je suis embêté, j'ai ma fille qui s'est harcelée à l'école. » Et il y a quelqu'un qui surenchérit, Oh, c'est incroyable, mais moi aussi, ça a été terrible, on a fini au commissariat. Et à chaque fois qu'on parle, en fait, on communique, c'est comme un millefeuille. On annonce une information, l'autre surenchérit, et on surenchérit. Et en fait, on ne s'écoute pas. Or, quand la personne dit, j'ai ma fille qui s'est fait harceler à l'école, qu'est-ce qu'il attend réellement? Il attend qu'on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et en tant que père, qu'est-ce que ça fait pour toi? C'est ça qu'il attend. C'est pas qu'on lui dise qu'on connaît quelqu'un qui a eu pire ou mieux. On n'est pas dans le jeu psychologique dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire le mien est mieux que le tien. La vraie problématique de l'écoute, c'est qu'effectivement, on a tendance à pas s'écouter. On écoute pour répondre, au lieu d'écouter pour apprendre et comprendre.
Quelque part, ce que tu nous dis là, c'est écouter les émotions de l'autre.
Oui. Il faut non seulement écouter les émotions de l'autre, mais aussi se connecter à ses émotions. Lorsqu'on fait du coaching, et pour tous les coachs qui sont certifiés, l'objectif, c'est jamais donner de conseils. On écoute, et l'idée, c'est simplement de faire ressortir chez l'autre les ressources pour permettre de résoudre son problème. Donc, j'ai écrit la communication solutionnelle, c'est un des thèmes. La dernière fois, on en avait parlé sur comment faire une critique assertive en communiquant sur la solution plutôt que sur le problème. Mais lorsqu'on fait une critique, c'est parce que c'est moi qui ai un problème par rapport à l'interlocuteur. Mais quand c'est l'autre qui a un problème, là, je dois l'écouter. C'est une écoute solutionnelle. C'est lui qui a les ressources pour résoudre en fait son problème. Et moi, je l'aide juste par l'écoute à trouver les solutions. C'est toute la force de l'écoute et du silence.
Et le silence, ça a une valeur quand on écoute.
Le silence a une valeur exceptionnelle dans la formation, dans le coaching. Et écouter, c'est pas juste faire silence. Parce que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous l'écoutez à moitié, vous le sentez. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui vous écoute totalement, vous le sentez également. Et pourtant, dans les deux cas, il fait silence. Toute la dimension en fait de l'écoute, c'est une dimension paraverbale, mais aussi non-verbale. C'est pour ça que on dit se connecter aux émotions. Ça va se faire par rapport au paraverbal, le regard, le hochement, comme tu fais là. On le voit pas à l'écran ici, mais
c'est une nouveauté de l'année.
Et puis, on va le voir à travers aussi le verbal, puisqu'on va verbaliser aussi les émotions qu'il faut ressentir. Exemple, si tu exprimes quelque chose avec une émotion, je veux dire, j'imagine que dans cette situation, tu dois ressentir ça. Tu dois te sentir inquiet. J'imagine que dans cette situation, tu dois te sentir dépourvu, très inquiet de la situation. Enfin, on va cibler et se connecter à l'émotion de l'autre. Ça, c'est important.
Et ça, tu le vois à travers les accompagnements que tu fais. Tu vois qu'on travaille pas assez l'écoute, c'est ça, cette capacité à écouter. Quelles sont les problématiques qui... Toi, tu es un expert, professeur d'université, tu écris des livres, tu accompagnes des directions commerciales, des directions tout court, des équipes ont besoin de s'écouter parfois ou d'écouter leurs clients. C'est quoi les principales problématiques?
La principale problématique, c'est qu'on se précipite. C'est qu'on écoute à travers nos biais et on a du mal, en fait, à pouvoir prendre l'ensemble de la dimension, en fait, d'un sujet. Je vais donner un exemple.
On est pressé.
Oui. Ouais. Si tu permets, je vais te poser quelques questions, mais je veux que tu ailles vite.
Essayez.
Est-ce qu'il y a un 14 juillet en Belgique?
Oui.
Combien d'animaux mangent avec leur queue?
3.
Tous, ils vont pas l'enlever pour manger. Et effectivement, il y a bien un 14 juillet en Belgique, mais il y en a qui vont me dire non, il n'y a pas de 14 juillet en Belgique, parce qu'on n'écoute pas. Et qu'à travers notre biais, on va imaginer qu'on parlait de la fête nationale. Tous les mois, on 31 jours, combien en ont 28?
10.
Tous. C'est une question, en fait, de problématique, de perception. Et en fait, c'est parce que j'ai demandé à Geoffroy d'aller vite. Si jamais je t'avais dit tu as le temps de réfléchir, tu aurais ouvert évidemment la possibilité de voir d'autres options possibles. Et c'est ce que je dis aux managers, attendez avant de prendre une décision, il y a plusieurs possibilités. Et votre perception, ne restez pas à travers vos biais cognitifs de filtres qui vont justement créer une distorsion. l'art de la persuasion, l'art de la communication, vous allez en parler après peut-être dans d'autres podcasts, mais la communication, elle repose sur un principe important, c'est Confucius qui nous le disait, si un homme a deux oreilles, il mousse, c'est pour entendre deux fois plus qu'il ne parle. Donc il y a une règle qui est le deux tiers, un tiers. Communiquer, c'est en réalité parler pour un tiers et écouter, observer pour deux tiers. Et quand je parle, j'exprime en réalité pour un tiers et je questionne pour deux tiers. Et quand j'exprime mes idées pour un tiers et je reformule pour deux tiers. Donc une bonne communication, c'est une communication où on va écouter, observer, questionner, et reformuler, et éventuellement, à la fin, on va exprimer ses idées. C'est ce qu'on enseigne à toutes les écoles de négociation, de vente. Un bon vendeur, c'est pas celui qui parle, qui a la tchatch, c'est bien celui qui écoute, qui observe. Moi, quand je fais du profilage comportemental, c'est le principal sujet.
Tu les mets en situation.
On les met en situation d'écouter, d'observer quel est le profil comportemental, comment je questionne pour obtenir les informations qui me manquent pour avoir un profilage qui est le plus fin possible. Je reformule et enfin, éventuellement, je vais exprimer une vente.
Et tout ça, ça se prépare. Parce que tout à l'heure, on parlait d'émotion, on parlait de silence et on parle de reformulation. Bon, c'est de l'entraînement quand même derrière.
Oui, alors c'était Goethe qui disait parler est un besoin, mais écouter est un art. C'est vrai que c'est un art. Et ça se travaille. L'écoute active. L'écoute coach, comme on peut l'appeler, moi j'appelle aussi l'écoute solutionnelle. C'est une écoute qui va permettre de faire ressortir chez l'autre les ressources pour régler son propre problème. Évidemment, je viens avec un problème, je vais t'écouter, je vais te poser des questions. Et quelle est la démarche en fait? La première phase, c'est l'écoute. J'écoute en étant présent à 100%. Ce qu'on disait tout à l'heure, je peux écouter l'autre à moitié, comme je peux l'écouter à 100%. Là, il faut l'écouter à 100%.
En se taisant.
J'écoute vraiment en laissant des silences, parce que c'est le silence qui va permettre à l'autre de le remplir. C'est pas à moi de le remplir, c'est à lui de le remplir avec ses propres ressources. Ensuite, je clarifie. Et je clarifie en me connectant aux émotions, à la fois grâce au paraverbal, le regard, je soutiens le regard, le hochement de tête, et puis le verbal, on va verbaliser les émotions. J'imagine que dans cette situation, tu as été contrarié. J'identifie, je clarifie l'émotion qui a été identifiée dans la conversation. Ensuite, je vais approfondir et questionner. Je vais poser, bien sûr, des questions ouvertes et pas des questions fermées. L'objectif, c'est de le laisser parler et toujours orienter sur la solution, ça c'est mon dada. Donc, comment tu résumerais la situation? Quel est ton ressenti? Que comptes-tu faire? Que décides-tu? Dans l'idéal, que pourrais-tu faire? Les coachs utilisent aussi, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce que tu ferais? Et puis, la dernière phase, c'est de reformuler. Alors, la reformulation, elle est très importante parce qu'il y a plusieurs techniques.
Ça permet de connecter.
Ça permet de connecter, ça permet de relancer, ça permet justement de remplir ce qui pourrait laisser des vides aussi.
C'est pas toujours simple, ça, la reformulation.
Il y a des techniques pour ça. Je vous en donner quelques-unes. Si la personne dit, moi, j'ai pas le temps, j'ai trop de travail. On peut, en écho, approfondir. Ah oui, tu as trop de travail? Oui, je relance en écho. Mais on peut aussi dire, en synthèse, pour clarifier, si je comprends bien, tu es débordé, car patron t'a donné une mission plus importante, des missions plus importantes. On peut le faire aussi en recentrage, pour aboutir sur un sujet. Tu as trop de travail ou tu n'as pas assez de temps? Je recentre. Et puis enfin, on peut le faire en déduction, pour valider une hypothèse. Tu me dis donc que tu as besoin de prioriser, c'est bien cela? Oui, on a plusieurs approches dans la reformulation qui permet de relancer, de clarifier l'interlocuteur et ses propos.
Tout en restant naturel, parce que là, tu nous décris un processus organisé, avec un objectif d'arriver à ses fins. Il ne faut pas que ce soit de la manipulation non plus. Comment on évite aussi cet écueil?
En fait, il faut que ça reste naturel. L'écoute, elle doit être à 100%, mais l'intérêt pour l'autre aussi, il doit être à 100%. Donc, s'il n'y a pas d'intérêt, c'est sûr qu'on aura du mal à poser les bonnes questions. Là, les techniques, elles sont là uniquement pour qu'on se les approprie au départ, on est inconscient de son incompétence. On ne savait pas qu'il y avait des techniques. Après, on devient conscient de son incompétence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des techniques, mais on ne sait pas les utiliser. Ensuite, on devient conscient de sa compétence. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des techniques, on va essayer de les utiliser. Et à force de répétition,
on acquiert une confiance.
On devient inconscient de sa compétence. On le fait sans y penser. Donc, je pense que, à force d'expérience, on finit par avoir une écoute coach qui permet vraiment à l'autre de faire ressortir ses ressources.
Et ça renforce son image d'expert et de professionnel. On a des auditeurs et des auditrices qui développent aussi leur business à travers un relationnel qu'ils entretiennent, qu'elles entretiennent avec cette technique.
Tu as dit quelque chose d'essentiel.
C'est important.
Essentiel, Geoffroy, c'est que à travers le questionnement, on va montrer son expertise. Et je le dis dans toutes mes conférences. En fait, c'est pas ce que vous savez qui va montrer votre expertise, c'est à travers vos questions. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai un secrétaire d'État qui m'appelle et qui me dit, voilà, on m'a donné vos coordonnées, je voudrais savoir qu'est-ce que vous faites et combien ça va coûter. Bon. Alors, écoutez, permettez-moi de vous poser quand même quelques questions. Quel est l'objet, en fait, de votre appel? Quel est l'objet aussi de cet accompagnement? Alors, il passe DG d'une énorme aglo, il a jamais fait de management de cette nature-là, 6000 agents à gérer, enfin bon, bref, il y a un accompagnement management à avoir. Et donc, je lui pose plein de questions. Des questions, est-ce que vous avez déjà fait...
Dès le premier contact.
Dès le premier contact, je lui pose des questions. Est-ce que vous avez déjà fait du profilage comportemental? Est-ce que vous connaissez l'analyse transactionnelle? Est-ce que vous avez déjà fait de la process communication? Enfin bref, je lui pose un certain nombre de questions. Et à la fin de l'entretien téléphonique, il me dit, écoutez, je vous prends. Bon, c'est très bien. Mais je suis très honoré.
Le rencontrer.
Je le rencontre. On fait le premier rendez-vous. Et je me permets de lui poser la question. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi vous m'avez choisi et comment ça s'est fait? Et il me dit, écoutez, j'ai eu 5 coachs. On m'a envoyé 5 coachs. Je les ai tous appelés. Et quand j'ai posé la question, qu'est-ce que vous faites et combien ça va coûter? Tous m'ont fait... vraiment leur CV, j'ai eu des listes entières de tout ce qu'ils avaient réalisé auparavant, avec un coup. Et quand je vous ai posé la question, vous ne m'avez rien dit du tout. Et
vous m'avez interrogé.
Et à travers vos questions, je me suis dit, oh là, celui-là, il doit vraiment en connaître, et c'est avec lui que j'ai envie de travailler. Bon, j'étais quand même très frustré, j'aurais aimé lui dire, j'ai coaché tel homme politique, et celui-là. Je ne l'ai pas fait. L'objectif, ce n'était pas moi, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre, c'est comment moi je peux l'aider. Oui, pas comment moi j'ai réussi.
Ah, il a un des grands, je dirais, pièges peut-être aussi pour, dans une relation comme ça, même qui peut être pré-contractuelle, hein, en phase de prospection, c'est d'étaler finalement ses références de clients avant même de savoir à qui on a affaire, dans quel contexte cette personne peut avoir besoin de vous, cette entreprise.
Mais l'expertise, elle se fait effectivement, comme tu le disais, à travers le questionnement et certainement pas à travers l'affirmation.
C'est l'image donc une posture, en tout cas la posture professionnelle autonome qui se construit à travers la capacité à questionner son interlocuteur, montrer qu'en fait, il est, je pense que tu partages cet avis, il est au cœur de nos préoccupations sans même déjà se connaître. C'était l'exemple que tu citais.
Mais oui, les gens, ils ont besoin de parler d'eux-mêmes. Et si on prend un coach, c'est justement pour traiter leurs questions, leurs tracas, leur expérience, leurs problématiques. On n'est pas là pour leur dire on est les meilleurs. Et c'est ça.
Là, tu avais un cas précis, parce que je pense que tu en rencontres beaucoup, et merci de nous partager, où il fait appel, il est conscient qu'il a besoin de toi. Mais il y a aussi des situations où les personnes n'ont pas conscience d'avoir besoin d'un conseiller externe, d'un appui, d'un formateur. Et là, l'écoute, elle doit aussi être source derrière de contact, et puis de pouvoir déceler finalement qu'il y a un besoin qui n'est pas exprimé. Donc c'est le non-verbal, c'est le non-exprimé. Donc de passer d'une écoute active, alors, je ne sais pas comment tu la qualifies, toi, en tant qu'expert, mais c'est ça qui n'est pas facile. C'est-à-dire que le besoin n'est pas exprimé, mais l'écoute va permettre, ensuite, tu parlais de reformulation, d'arriver à déclencher un besoin. qui répond et puis d'y répondre ou pas d'ailleurs parce que
oui ou pas on fait un diagnostic, c'est ça tout le principe de l'écoute. Moi il m'est arrivé de faire des coachings, les premières séances, l'écoute m'a permis de dire vous avez pas besoin d'être accompagné, la problématique elle est ailleurs. C'est par l'écoute que justement on fait notre diagnostic.
C'est un outil.
Comme si on allait voir un médecin et que tout d'un coup, on dit « je voudrais tel médicament ». Je dis « non, je ne sais pas si c'est celui-là qu'il vous faut. Faisons d'abord un diagnostic et on verra ce qu'il en est ». Parfois, rien n'est exprimé, comme tu l'as dit, et qu'il faut aller chercher, non pas dans ce qui est exprimé, mais justement dans ce qui ne l'est pas. On va avoir à travers les silences, on va avoir à travers les questions, la manière dont il va se positionner. C'est pour ça que la communication non-verbale, elle est essentielle. Parce que c'est à travers le paraverbal et le non-verbal qu'ils vont transpirer des choses sur lesquelles ils n'auraient pas osé mettre un mot. Donc c'est important de pouvoir bien observer.
Mais c'est, ça, c'est pas facile parce que on se dit bon bah il dit rien. En tout cas, j'entends pas ce que je voudrais entendre. Et donc on a tendance plutôt à dire bon on passe son chemin. Il a rien exprimé. Ce que tu dis, c'est que, bah non, il y a des signes. Il y a des signes, et là, il faut creuser. Et là, il faut avoir l'appétence. C'est ça, ce que tu nous dis.
Bien sûr. Il y a des moments assez clés dans le coaching, et il y a des situations qui sont assez singulières. Un jour, un dirigeant me dit, je vais arrêter mon entreprise, je vais la céder. Et je lui dis, je laisse un peu de silence. Et je lui dis, qu'est-ce que, si vous m'en parlez, c'est que vous ressentez quelque chose. Et il me dit, je suis un peu triste. À ce moment-là, si vous n'êtes pas dans l'écoute, il me dit, oh, ça ne sert à rien d'être triste, tu repars avec un beau paquet, arrête un peu. Non, je l'écoute, je laisse le silence. Et lui-même, il me dit, bon, je suis triste, mais d'un autre côté, j'ai bien vécu, je suis content de transmettre à quelqu'un que je connais bien. Vous voyez, il s'est auto-coaché, en fait. Moi, j'ai juste écouté, j'ai rien dit. Il me dit, je suis triste, je lui dis, qu'est-ce que vous ressentez? Il me dit, je suis triste. Je laisse le silence.
C'est rare, ça, quand même. Et,
non, c'est souvent.
Ah, c'est souvent.
C'est souvent parce que c'est par le silence, on laisse un vide. Et c'est lui-même
qui, naturellement,
qui va le combler.
Le combler parce
que. Et il faut avoir cette humilité. C'est ça que je veux au moins transmettre. C'est que l'écoute, c'est une grande leçon d'humilité. On a tellement d'ego qu'il faut pouvoir laisser la place à l'autre. Après vous, monsieur, après vous, madame.
Et la patience, donc, c'est ce que tu nous dis aussi dans les qualités nécessaires pour bien écouter. Être patient.
C'est ce que je disais tout à l'heure.
Et ne pas être pressé ou précipiter une reformulation, une proposition.
Oui.
Trouver le bon moment.
Écouter sur plusieurs dimensions. Est-ce que ce qu'il me dit, c'est vraiment ce qu'il ressent? Est-ce que le sens qu'il dit, il y a plusieurs sens ou pas? Comme... est-ce que les animaux mangent avec leur queue? On l'a fait tout à l'heure. Il faut pouvoir prendre le temps d'une bonne écoute, de reformuler, de questionner avant d'exprimer ses propres idées.
Ce que tu dis là, c'est que finalement, il faut se questionner sur ce qu'on perçoit, enfin sur ce qu'on ressent, ou ce qui peut être ressenti par l'interlocuteur en face de soi, au téléphone, etc. C'est ça. C'est en fait une capacité d'analyser, de se questionner sur ce que peut vivre à l'instant T la personne qui est en face de soi et qu'on est en train d'écouter.
Oui, il y a une capacité exactement d'empathie, de se connecter aux émotions de l'autre et aussi de se mettre à sa place. C'est tout l'art en fait de l'écoute, du questionnement dans l'art de l'écoute. L'écoute coach, l'écoute active, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais en tout cas, on a compris le principe de se mettre à la place de l'autre, d'être très empathique, avec une grande leçon d'humilité.
Merci Arnaud pour le temps que tu nous as consacré, pour ce partage d'expérience sur l'écoute active, l'écoute coach, comme tu l'appelles. J'invite les auditeurs à se référer aussi à ton livre « La communication solutionnelle » qui s'adapte très bien et qui... à des vies professionnelles, à sa vie tout court, sa vie familiale. C'est un ouvrage, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et puis, j'invite évidemment tous les auditeurs qui ont aimé ce podcast à le partager sur les différentes plateformes. Les génies du bien, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.
Les génies du bien, le podcast qui vous veut du business. En partenariat avec le Lab et Freeland Academy, organisme de formation leader pour les indépendants.